massacré. Art Sacré, une émission présentée par Marie-Madeleine Rey.
Bonjour à tous.
Bonjour.
L'église fête Saint Matthias, apôtre, le 14 mai. Mais qui est Saint Matthias? On sait qu'il obtint le qualificatif d'apôtre de Jésus entre l'Ascension et la Pentecôte, où eut lieu le tirage au sort du 12e apôtre qui devait remplacer Judas. L'élection de Matthias à la place de Judas est racontée au premier chapitre des Actes des Apôtres, préféré à Joseph Barsabbas après la prière au Saint-Esprit par le collège apostolique présidé par Saint-Pierre. Il rejoint les 11 après avoir fait partie des 72 disciples qui suivaient Jésus. Il serait né à Bethléem, serait à peu près de l'âge de Jésus. Il aurait d'abord suivi Jean-Baptiste dans le désert, pour ensuite ne plus quitter le Christ. Alors pour faire connaissance avec Saint Matthias, j'ai le plaisir d'accueillir à ce micro Jeanne Tornel. Bonjour Jeanne.
Bonjour Marie-Madeleine.
C'est une gravure, une estampe du XVIe siècle qui se trouve à la bibliothèque municipale de Lyon, que vous avez choisi de nous commenter. La gravure a été effectuée par Paul Maupin, graveur du XVIIe siècle, né à Abbeville, d'après normalement un dessin de Jacques Stella, qui a vécu aussi au XVIIe siècle. Il est né en 1596 et mort en 1657. Alors, amis auditeurs, si vous voulez retrouver cette gravure, tapez Saint Matthias, Maupin, M-A-U-P-I-N, Bibliothèque Lyon. Voilà. Alors, on ne sait pas qui a fait le dessin, qui a gravé entre Maupin et Stella. Mais Maupin, on ne trouve quasiment rien sur sa biographie. Il a été complètement oublié. Quant à Jacques Stella, c'est un peintre et un collectionneur d'art français qui est né à Lyon donc en 1596 et mort à Paris en 1657. C'est un peintre d'histoire, essentiellement de sujets religieux, et c'est un graveur à l'eau forte. Il est honoré d'un brevet de peintre ordinaire du roi en 1635 sous le règne de Louis XIII. Alors il se forme à Lyon pour la cour d'un Italien comme Deux de Médicis. Donc il va à Florence, où il rencontre Jacques Callot. Jacques Callot, c'est le représentant français des scènes de genre et des types, ce qu'on appelle des types, c'est-à-dire il a représenté tous les paysans, hein, surtout. Donc l'influence de l'art florentin se fait sentir dans l'ensemble de l'œuvre de Stella, hein. Donc, il se rend ensuite à Rome. Voilà, il travaille pour le pape Urbain VIII. Il est influencé par le classicisme et il est influencé surtout par Nicolas Poussin, dont il devient l'ami. Hein. Donc, il regagne Lyon ensuite en 1634 et se rend à Paris auprès du cardinal de Richelieu qui le présente à Louis XIII. Voilà. Donc, Jeanne, vous avez donc choisi cette gravure de Saint Matthias, qui est un peu originale quant à la posture de Saint Matthias.
Oui, tout à fait. Comme je l'évoquais une fois précédente, je choisis l'œuvre en fonction du coup de cœur. Et là, j'ai trouvé cette estampe tout à fait originale, car Saint Matthias est représenté de dos. C'est assez peu courant. On représente plutôt les personnages de face, pour avoir le plaisir d'admirer leurs traits, la richesse ou non de leurs vêtements, et puis de regarder la personne en face. Là, cette estampe, qui est donc en noir sur un papier plutôt beige et cru, couleur naturelle, elle mesure 31 cm de haut et 19,5 cm de large. Elle est conservée donc à la Bibliothèque municipale de Lyon. Lyon est une ville très riche artistiquement. Visitez les musées français, n'hésitez pas, visitez. ça vaut le coup.
J'approuve.
Oui. Et donc, ce Saint Matthias, en me tournant le dos, a attiré toute mon attention. Mais cela a provoqué quelques difficultés. D'abord parce que Saint Matthias, on ne sait pas grand-chose de lui. Et cette estampe, qui est très sobre, très simple, ne permet pas de digression sur la couleur, sur le mouvement, sur toutes les choses qu'on est habitué à présenter dans notre émission. Je vais quand même vous la décrire, car Saint Matthias en impose. Bien qu'étant de dos, il a le regard tourné vers le lointain, mais on l'aperçoit ce regard, il est de trois quarts. On voit qu'il a un nez droit et puissant, qu'il a un regard qui n'est pas admiratif ou rêveur, qui est plutôt
curieux,
projeté vers le lointain.
Il observe.
Il a une barbe et une moustache, comme c'était à la mode à l'époque. Il a les cheveux légèrement long, mais qui lui tombe à peine sur la nuque.
Il est d'un certain âge.
Et c'est un monsieur relativement âgé. Alors à l'époque, on était âgé beaucoup
30 ans,
plus tôt.
Oui, oui, oui.
Il est quand même légèrement dégarni. Il a les cheveux plutôt clairs. On n'a pas voulu évoquer un homme brun. C'est ou alors il a les cheveux blancs, ou alors il a les cheveux clairs. On voit le galbe de son oreille. On voit le mouvement de ses cheveux. Sur une gravure, c'est pas si facile que ça à réaliser. Vous connaissez le système de la gravure, on a un support qui peut être de bois, qui peut être en métal. Si c'est en bois, on le grave avec différents ciseaux à bois, des stylets, etc. Si c'est sur un support en métal, on fait de la gravure à l'acide et on appelle ça de l'eau forte. L'un comme l'autre ne permettent pas de faire des choses extrêmement détaillées, mais c'est là qu'on reconnaît la virtuosité de certains graveurs. Ils arrivent quand même à montrer énormément de choses. Sur cette estampe-là, on ne peut pas dire que ça soit extrêmement détaillé, mais il y a quand même cette chevelure qui est soignée. Le vêtement porté par le saint est constitué de la tunique qui est longue, mais qui ne va pas jusqu'au pied, qui va jusqu'à mi-mollet à peu près, et du manteau qu'il porte drapé sur l'épaule droite. On ne voit pas le bras droit. On le suppose quand même peut-être replié vers le ventre, car il y a un renflement du manteau sur le côté droit. Et on voit très bien le bras gauche, qui est un bras puissant.
Oui,
et ce
robuste.
Bras gauche, qui est tendu vers le bas, est appuyé sur le manche d'une hache, fort sympathique, qui évoque deux choses à la fois. Alors, j'ai cherché la forme de cette hache. C'est une représentation classique de la hache médiévale, mais ce n'est pas la hache qu'on utilisait pour trancher les têtes, parce que ce pauvre Saint Matthias a subi, après moult humiliations, le martyre en étant d'abord lapidé, puis achevé à la hache. Quand on coupe la tête de quelqu'un, je ne vous parle pas de mon expérience, ni en matière de poule, bien entendu, on a un bio et il faut que la hache, de préférence, ait une lame arrondie. Ça rentre mieux dans les chairs. Si la hache est droite, comme ça, cela montre que c'est une hache de charpentier.
Voilà.
C'est une hache qui sert à équarrir le bois ou à lisser certaines parties et à le travailler. Donc la hache sur laquelle il est appuyé serait plutôt une hache de charpentier. Pourquoi une hache de charpentier ? Eh bien, parce que Saint Matthias étant à l'origine représenté avec une hache de son martyr, a été naturellement pris comme saint patron par les charpentiers, mais pas seulement par les charpentiers. Il y a aussi les taillandiers, les bouchers, mais aussi, très étonnamment, et aucun rapport avec la hache, sauf peut-être le coup de massue qu'on peut prendre derrière la tête, il est le saint patron des alcooliques, des noceurs, mais aussi...
Ils ont un saint patron, les noceurs.
Oui.
C'est bien.
C'est aussi lui qu'on invoque pour guérir de la variole, de la coqueluche, mais aussi j'ai appris qu'on le priait pour guérir de la petite vérole. Et il est enfin le saint patron de la ville de Trèves. Alors ce saint Matthias de Dôt est représenté dans un environnement assez simple de végétation avec des herbes, mais aussi au-dessus de cette végétation qui est derrière la hache, côté gauche, on voit des nuages. Donc c'est l'évocation du fait qu'il soit au ciel maintenant, qu'il soit céleste et qu'il veille sur nous. Et du côté droit, du côté du pied droit de Saint Matthias, on voit comme un tronçon de colonne qui serait au sol. Est-ce que c'est une ruine romantique ou est-ce que c'est l'évocation du billot qui a servi à reposer sa tête et à la trancher? Peut-être, est-ce que c'est ça? Et derrière ce tronçon, on voit comme un chapiteau corinthien renversé dans lequel de la végétation a poussé, puisqu'on aperçoit les détails des feuilles d'acanthe qui ont été sculptées sur cette ou comme un socle.
Est-ce que ça ne peut pas être aussi peut-être l'évocation de la chute des idoles ou du combat contre les idoles?
Peut-être.
Voilà, c'est une suggestion.
Voilà, c'est une idée. Alors, cette réalisation, alors, je ne peux pas me permettre de dire qu'elle est grossière. Elle est quand même assez raffinée, mais elle est assez simple dans l'évocation des ombres. C'est très difficile, sur une gravure, de faire apparaître une évocation de couleur, puisque c'est en monochrome. Mais vous arrivez quand même à voir les ombres dans les plis du manteau, les ombres entre le manteau et la tunique, les ombres sur le pied droit et sur tout le côté droit du sein. On voit que la lumière vient depuis le côté gauche et que le côté droit, à partir du grand pli transversal du manteau, est signifié par des hachures comme étant dans l'ombre. Il y a des hachures plus fines à d'autres endroits du manteau, mais ce n'est pas pour la taille de cette estampe qui fait quand même 31 cm de haut. On doit pouvoir trouver des représentations un peu plus fines. Donc voilà. Après, je ne nie pas du tout le travail que ça représente.
Hein. Bien sûr.
J'en suis même assez admirative. Ce Saint Matthias, on apprend plusieurs choses sur lui. Donc, il a d'abord été disciple, puis choisi par Dieu pour remplacer Judas. Donc, il a été choisi par Dieu après avoir prié l'Esprit Saint.
Par les apôtres.
Voilà. Les apôtres ont choisi Saint Matthias. On trouve aussi dans certains textes qu'il aurait été le père de Saint Barthélemy. Dans d'autres, on dit aussi que Saint Matthias, en fait, ce serait un Zachée. Mais pas le Zachée qui grimpe à l'arbre, un autre Zachée. Et on le trouve aussi comme étant peut-être un Nathanaël. Et même, on trouve jusqu'à l'évocation du fait qu'il aurait été un des bergers venant s'incliner devant Jésus à la crèche.
Ah oui.
Donc, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, comme quoi il avait à peu près le même âge de Jésus, c'est pas très
ça
cohérent.
Ça colle pas, oui.
Donc, Saint Matthias, on trouve une phrase qui lui est attribuée et qui, je trouve, est bien en lien avec cette estampe. Cette phrase est la suivante. « Nous devons résister à notre chair, ne lui attribuer aucune valeur et ne rien lui concéder pour la flatter, mais plutôt renforcer l'élévation de notre âme au moyen de la foi et de la connaissance. » Vis-à-vis de cette phrase, je me dis que c'est peut-être pour cela que l'artiste a voulu le représenter de dos, pour ne pas qu'on attache d'importance à son visage, à sa chair, et qu'on pense plutôt à ce sur quoi il a voulu appuyer toute sa vie, sur la foi, sur la chrétienté, sur le courage d'une vie religieuse. Et donc je me suis dit que son allure n'avait pas d'importance. Voilà, c'était Saint Matthias, il regardait ailleurs. Il n'a pas envie qu'on le regarde lui, Il veut qu'on regarde le Christ et Dieu.
Mais par son attitude réalisée par cette gravure, hein, c'est un homme robuste, les pieds sur terre, ferme dans son cheminement, j'ose dire. Voilà, il est vraiment, c'est un homme carré.
C'est un homme sur lequel on peut s'appuyer.
C'est ça.
Et il est dit comme un homme juste et bon. Il est cité à plusieurs endroits comme un homme juste et bon. Et avec cette solidité qui font la confiance, en fait.
Et oui, mais ça se voit dans ce dessin. C'est frappant.
Oui,
c'est
vraiment frappant. Il est massif, en fait.
C'est ça.
Il est puissant.
Et oui. Puissant physiquement et puissant
spirituellement.
Spirituellement, voilà. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être lire les Actes des Apôtres, le passage où Matthias est désigné 12e apôtre à la place de Judas. Donc, c'est aux Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 15. « En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, qui étaient réunis au nombre d'environ 120 personnes. » Et il déclara, « Frères, il fallait que l'Écriture s'accomplisse. » Et là, on va sauter au verset 21. « Or, il y a des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous, depuis le commencement, lors du baptême donné par Jean, jusqu'au jour où il fut enlevé d'auprès de nous. Il faut donc que l'un d'entre eux devienne avec nous témoin de sa résurrection. On en présenta deux, Joseph appelé Barsabas, puis surnommé Justus, et Matthias. Ensuite, on fit cette prière. Toi, Seigneur, qui connais tous les cœurs, désigne lequel des deux tu as choisi, pour qu'il prenne, dans le ministère apostolique, la place que Judas a désertée, en allant à la place qui est désormais la sienne. On tira au sort entre eux, et le sort tomba sur Matthias, qui fut donc associé par suffrage aux 11 apôtres. » Voilà, fin de citation, donc des Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 15 à 26. Eh bien, nous terminons par ce passage des Actes des Apôtres. Vous voulez ajouter quelque chose, Jeanne ?
Oui, une petite chose. Dans la vie de saint Matthias, on nous rapporte que ses reliques auraient été ramenées à Rome, à Sainte-Marie-Majeure, et qu'elles y seraient. Et c'est pour ça que ce saint est très vénéré en Italie.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup,
avec
Jeanne
plaisir.
Tornel, pour nous avoir fait mieux connaître le 13e apôtre saint Matthias. Merci à Emmanuel, qui préside à la technique. Merci à vous tous, chers auditeurs, de nous suivre dans cette émission sur les arts sacrés. Vous pouvez nous retrouver en podcast sur Radio Présence Cahors, rubrique Les Arts Sacrés. Le prochain numéro sera dans une semaine. Même lieu, même heure. Bonne semaine. Au revoir.
Au revoir.
Arts Sacrés. Arts Sacrés, une émission présentée par Marie-Madeleine Reille.